L'eau,
vrai bonheur,
c'est dans la sainte parole du Seigneur Jésus-Christ et dans sa sainte présence. Préparez-vous, préparez vos cœurs à recevoir la vérité. Préparez-vous à recevoir la vérité chez vous. C'est l'heure de la vérité. C'est l'heure de la vérité. La vérité qui divise et qui dérange, mais aussi et surtout la vérité qui affranchit, la vérité qui sauve, la vérité qui délivre, la vérité qui libère. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre, a dit le Seigneur Jésus-Christ dans l'évangile de Jean chapitre 8, le verset 32. Vous tous qui aimez la vérité, et surtout la vérité biblique, soyez abondamment bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour vous servir, je suis le pasteur et serviteur du Seigneur Jésus-Christ, Rodrigue Genji. Alléluia, gloire à Dieu, Amen.
Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, très chers auditeurs, vous êtes bel et bien connectés à votre émission L'heure de la vérité. Recevez mes sincères salutations dans le magnifique nom de notre Seigneur et Rédempteur Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Une fois de plus, je suis vraiment ravi de vous savoir de plus en plus nombreux à l'écoute de l'heure de la vérité. Et je voudrais continuer à vous encourager, très chers auditeurs, à faire tout pour avoir une Bible avec vous. Oui, afin de la méditer de temps en temps et surtout pour vérifier tout ce qui est dit à partir d'ici. Parce que je souhaite que votre foi soit fondée sur la parole de Dieu et non sur autre chose, ni même sur les déclarations des hommes. Oui, puisque nous parlons de la foi, oui, justement, nous allons partager sur la foi. Oui, cette mission sera consacrée à la foi. Nous allons nous intéresser à un aspect précis de la foi selon la parole de Dieu. Restez connectés.
À mentir,
dis non,
ça c'est péché, c'est pas bon,
tu n'aimes pas ça.
Si ton cœur te pousse à voler, dis non, ça c'est péché, c'est pas bon,
tu n'aimes pas ça.
Le salaire du péché, c'est la mort, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Ne mens pas, ne vole pas, choisis Jésus. Il est le chemin et la vérité, la vie. Mentir, c'est pas bon.
C'est pas bon.
Voler, c'est pas bon.
C'est pas bon.
Tricher, c'est pas bon, c'est péché. Dieu n'aime pas ça, je le répète,
Dieu n'aime pas ça.
Très chers auditeurs, notre texte de méditation se trouve dans l'épître de Jacques. Oui, l'épître de Jacques, chapitre 2. Au verset 14, il est écrit: mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Et au verset 18 et 19, il est écrit: mais quelqu'un dira: Toi, tu as la foi et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Verset 19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu et tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Oui, très chers auditeurs, la Bible aborde la question de la foi dans cette portion des Saintes Écritures. Et au verset 14, la Bible nous dit, cette foi peut-elle le sauver? Donc ça veut dire qu'il y a la foi qui sauve. Oui, il y a la foi qui sauve et il y a la foi qui ne peut pas du tout sauver. Quelle est la foi qui sauve? La foi qui sauve, c'est cette foi qui non seulement croit à ce que Dieu dit dans sa sainte parole, mais qui s'engage également à pratiquer ce que cette parole recommande. Oui, c'est cette foi qui sauve. Si je me tiens au carrefour en ce moment même et que je commence à dire qui a la foi, tout le monde va lever le doigt. C'est vrai, parce que tout le monde a la foi. Mais il y a la foi qui sauve et la foi qui ne sauve pas. Pour me faire comprendre, parce que tout le monde sait que Jésus-Christ est le sauveur du monde. Mais ce n'est pas pour autant que tout le monde est sauvé. Et pourtant, il croit bien que le Seigneur Jésus-Christ est celui qui est venu mourir pour nous à la croix, celui qui sauve. Mais pourtant, ils ne sont pas sauvés. Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas sauvés? Et pourtant, ils savent que Jésus-Christ est venu pour nous sauver de nos péchés et de la perdition. C'est parce qu'ils ne sont pas prêts à faire le pas nécessaire qui va leur donner le salut. Ce pas consiste à non seulement croire que Jésus-Christ est venu pour nous sauver, mais l'accepter comme sauveur. Et faire ce qu'il demande, à savoir se repentir de ses péchés et l'accepter dans sa vie, dans son cœur, comme son Seigneur et sauveur. Voilà par exemple la foi qui sauve. Vous avez beau croire que Jésus-Christ est le sauveur du monde, tant que vous ne vous engagez pas à l'accepter dans votre vie comme votre Seigneur et sauveur personnel, vous ne serez jamais sauvé. Vous allez mourir tout en sachant que Jésus-Christ est le sauveur du monde, qu'il est venu vous sauver de la perdition, de l'étang de feu de l'enfer. Vous allez mourir, cela ne vous empêchera pas d'aller dans l'étang de feu, dans l'enfer.
This is my desire to honor you. Lord, with all my heart, I worship you. Within me, I give you praise, and all that I adore is in you. Lord, I give you my heart, give you my soul.
Oui, nous avons vu la foi qui sauve. Et c'est cette foi qu'il faut à tous les hommes pour être sauvés. Sans cette foi, ils ne seront jamais sauvés. D'ailleurs, nous allons voir la foi qui ne peut pas sauver. Nous sommes dans l'épître de Jacques, chapitre 2. Au verset 19, il est écrit: tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. La Bible nous parle ici de cette foi intellectuelle qui n'a rien à voir avec la foi qui sauve. Et beaucoup sur la terre ont ce genre de foi, la foi intellectuelle. La foi qui ne peut pas du tout les sauver. La foi que la Bible nous dit que même les démons en ont. Donc même les démons et le diable ont ce genre de foi. C'est la foi intellectuelle, la foi qui est dans la tête, qui n'est pas dans le cœur. Et cette foi ne peut sauver personne. Beaucoup me disent toujours, non, je crois qu'il y a un Dieu, je crois qu'un Dieu, il y a un Dieu qui existe. Je crois, ça ne suffit pas, ce genre de foi ne peut pas vous sauver, parce que la Bible dit que même les démons savent que Dieu existe. Donc beaucoup ont que ce genre de foi que les démons Et les démons savent que Dieu existe, qu'il est le Tout-Puissant, qu'il est le Créateur de toutes choses. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils ne font pas le mal. Ce n'est pas pour autant qu'ils font la volonté de Dieu. Oui, ça c'est une foi intellectuelle. Beaucoup savent que Dieu est le Tout-Puissant, que Dieu est le seul capable de les protéger et de les sauver. Et pourtant, ça ne les empêche pas d'aller tous les jours chez les marabouts. Ça ne les empêche pas d'aller chez les féticheurs chercher la protection, chercher le blindage. Alors qu'ils savent bien que Dieu est Tout-Puissant pour les protéger. Dieu est suffisamment grand pour les blinder. Mais parfois, ils sortent de la messe le dimanche et directement, le soir, ils sont chez les marabouts. Le lendemain, ils sont chez les marabouts pour chercher la protection, le blindage. Donc ça, détrompez-vous. Vous n'avez pas du tout la foi selon la parole de Dieu. Vous n'avez qu'une foi intellectuelle. Donc, cette foi ne peut pas vous sauver. Je veux vous encourager à avoir que ce genre de foi qui peut vraiment vous sauver. Donc, de ne pas seulement croire que Dieu existe, qu'il est le Tout-Puissant, que c'est lui le Créateur de toutes ces choses, mais d'ouvrir vos cœurs et de pratiquer ce qu'il vous recommande. Oui, c'est ce genre de foi dont vous avez besoin, très chers auditeurs, pour être sauvés. La Bible nous dit dans Ésaïe, chapitre 8, vous pouvez noter et après vérifier. Par exemple, dans Ésaïe, chapitre 8, au verset 19, il est écrit: si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Oui, voilà. Dieu nous dit ici que si on vous pousse à aller consulter les morts, Dieu dit, mais est-ce que vous allez laisser le Dieu qui vous a créé pour aller interroger que les morts sur votre vie, sur votre avenir? Non, 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 non. Pour Dieu, c'est même de la stupidité, c'est de la folie. C'est-à-dire d'aller consulter les morts. Et c'est ce que beaucoup font. Beaucoup disent qu'ils ont la foi, qu'ils croient en Dieu, mais ça ne les empêche pas d'aller sur les crânes chercher la bénédiction, chercher la vie. Comment est-ce que ceux qui sont déjà morts peuvent vous donner la protection et la bénédiction alors qu'ils sont déjà morts? Non, c'est Dieu qui est vivant, qui peut vous bénir, qui peut vous protéger, qui peut vous sauver. Voilà la foi selon la parole de Dieu. Beaucoup vont même dans les églises, les temples, les dimanches, mais ça ne les empêche pas d'aller chez les marabouts et d'aller chercher la protection, la vie, le bonheur sur les crânes. Non, non, non. Et par rapport aux crânes, en passant, je vais vous dire une chose. Sachez que même le fait de couper la tête de quelqu'un qui est déjà mort, c'est même un très grand crime. On vient, après un certain temps, on coupe la tête de quelqu'un qui est mort, on dépose dans un endroit, on commence à verser de l'huile dessus. Sachez que c'est un très grand crime. Parce que la Bible nous dit que, à un moment donné, tous ceux qui sont morts vont ressusciter. Le Seigneur va les ressusciter. Alors, imaginez que certains de vos parents, de nos ancêtres, qui sont morts, un jour ressuscitent et qui n'ont pas de tête, parce que vous avez coupé leur tête. C'est vraiment un très grand crime. Nous pouvons lire cela dans l'évangile de Jean, chapitre 5. À partir du verset 28, il est écrit. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui dit. L'évangile de Jean, chapitre 5, à partir du verset 28. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où ceux qui sont dans les tombes entendront la voix, sa voix, et en sortiront. Verset 29. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie. Mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Le Seigneur Jésus qui nous dit clairement ici que tous les hommes vont ressusciter. Imaginez certaines personnes qui vont ressusciter sans tête parce que vous avez coupé les têtes. Cessez de couper les têtes de ces personnes qui sont mortes. Laissez-les tranquilles dans les tombes pendant qu'ils attendent la résurrection du Seigneur.
Plus je te découvre, plus je te connais, plus j'ai le désir de t'aimer. Rien n'a pu t'arrêter, ton amour m'a changé, et je vais pour toujours le chanter. Tu es Seigneur de gloire, l'objet de mes pensées, je ne peux m'empêcher de t'aimer. Je me prosternerai humblement à tes pieds.
Dans Ecclésiaste chapitre 9, à partir du verset 4 au verset 6, il est écrit: pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. De même, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront. Mais les morts, il n'y a plus pour eux plus de salaire. Il n'y a plus pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Verset 6. Et leur amour, et leur haine, et leur envie ont déjà péri. Et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Ici, très cher Jésus, la Bible nous dit que ceux qui sont morts avec leur amour, leur haine et leur envie. Donc, ils ne peuvent plus nous aimer ni nous haïr. Ils ne peuvent pas non plus nous protéger ni nous bénir. C'est tellement regrettable que beaucoup qui disent qu'ils ont la foi, qui sont à l'église tous les jours, mais qui vont sur les tombes, bien sur les graines, chercher la protection. La Bible est claire ici, que ceux qui sont morts avec leur amour, leur haine, leur envie. Ils n'ont plus part avec ce qui se fait sous le soleil. Leur compte maintenant, c'est avec Dieu. Ils traitent maintenant avec Dieu par rapport à leur vie sur la terre. Ils n'ont plus rien à traiter avec les vivants. Donc les morts n'ont aucun pouvoir de nous influencer négativement ou positivement. Ce sont les mauvais esprits qui se tiennent derrière ces morts. Lorsque vous croyez à toutes ces choses-là, Satan et les sorciers et les mauvais esprits profitent pour venir agir en vous faisant croire que c'est cette personne qui est morte qui est en train d'agir. Non, en réalité, ceux qui sont morts avec leur amour, leur haine, leur envie. Ils n'ont plus part avec ce qui se fait sous le soleil. Sachez-le vraiment une fois pour toutes, très chers auditeurs. Oui, c'était vraiment pour attirer votre attention. Vous qui croyez qu'il y a un Dieu vivant, tout puissant, et qui le laissez encore pour aller chez ceux qui sont déjà morts chercher une certaine bénédiction. Non, ça, ce n'est pas une vraie foi. Et dans Matthieu, chapitre 7, nous pouvons lire à partir du verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est en train de dire: ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là, celle qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là: Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement: je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous tous qui commettez l'iniquité. Nous voyons clairement le Seigneur Jésus-Christ dit ici que ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront tous dans le royaume des cieux. Donc il ne suffit pas de dire Seigneur, il ne suffit pas de dire que Dieu existe. Il ne suffit pas de dire que je crois en Dieu. Mais seulement celui qui fait la volonté de Dieu. Et la première volonté de Dieu dans votre vie, c'est de vous repentir et de l'accepter comme Seigneur et Sauveur pour être sauvé. Ça, c'est la première volonté. Tout ce que vous allez faire, si vous ne vous êtes pas encore repenti et accepter le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie comme Seigneur et Sauveur, vous n'entrerez jamais dans le royaume des cieux. Puis ça, c'est la première volonté de Dieu. Et le Seigneur Jésus-Christ continue en disant, plusieurs me diront en ces jours-là, verset 22 de Matthieu chapitre 7, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? C'est-à-dire, n'avons-nous pas prêché ton nom? N'avons-nous pas parlé par ton nom? Donc, il ne suffit pas de parler de Dieu. Il ne suffit pas de prêcher le nom de Dieu. Il ne suffit pas d'aller à l'église. Il y a beaucoup qui sont même des pasteurs, qui sont des prêtres, qui chantent dans les chorales, mais qui ne sont pas des enfants de Dieu. Et nous pouvons remarquer cela autour de nous. Lorsque les dimanches, je vois des multitudes qui sortent des temples, parfois habillées en blanc. Toutes ces multitudes. Et je me dis, Seigneur, si toutes ces multitudes étaient réellement des vrais enfants de Dieu, c'est que nous sommes vraiment bénis. C'est que notre nation est bénie. Mais beaucoup sortent des temples, mais lorsqu'ils rentrent au quartier, ce qu'ils font n'a absolument rien à voir avec la vie d'un enfant de Dieu. Beaucoup qui se disent même des pasteurs. Beaucoup qui se disent des anciens. Beaucoup qui se disent des choristes. Ce qu'ils font n'a absolument rien à voir avec la parole de Dieu, avec la volonté de Dieu. Il m'est arrivé plusieurs fois de voir même certains venir se vanter qu'ils ont été baptisés même par les blancs. Mais ce sont de vrais soulards. Ce sont de vrais menteurs. Mais ils sont tout de même fiers de leur religion. Ils sont tout de même fiers de dire qu'ils se sont baptisés et qu'ils se sont déjà même confirmés. Et pourtant, la vie qu'ils mènent, Ils ne peuvent pas être fiers de cela. Ils sont fiers que de leur religion. Beaucoup sont fiers que de leur religion, mais pas fiers de la vie qu'ils mènent. Parce que la vie qu'ils mènent n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux. Et Jésus allait même plus loin en disant que certains vont venir dire, Seigneur, n'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous tous qui commettez l'iniquité. Sachez que même dans beaucoup de milieux, on peut faire des miracles. Mais ça ne veut pas dire que Dieu est d'accord avec la vie de ces gens. Oui, parce que partout où le nom du Seigneur Jésus-Christ est utilisé, Dieu, pour honorer son nom, peut faire certaines choses. Mais ça ne veut pas dire que ceux qui sont en train d'utiliser son nom pour faire certaines choses sont des enfants de Dieu. D'ailleurs, même les sorciers, les marabouts utilisent le nom de Dieu. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont des enfants de Dieu. Ils utilisent le nom de Dieu seulement pour tromper les gens. Mais le Seigneur Jésus-Christ dit que le dernier jour, il va les dire, « Retirez-vous loin de moi, je ne vous ai jamais connu, ouvrier d'iniquité et de péché. »
Je veux être saint, mis à part pour toi. Je veux être saint, mis à part pour toi. Que mon cœur soit trouvé pur et droit, que ma vie soit remplie de toi. Être saint, mis à part pour toi. Je veux être saint, mis à part pour toi. Que mon cœur soit trouvé pur et droit, que ma vie soit remplie de toi, et que ta gloire y soit présente, et que ton nom soit élevé. Que ma vie te glorifie.
Et pour finir, nous allons rester dans Matthieu, chapitre 7. Cette fois-ci, à partir du verset 15, un peu plus haut. Le Seigneur Jésus-Christ dit, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Verset 16, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Quand ils tombent des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons. Verset 17. Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Verset 18. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Verset 19. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Verset 20. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Le Seigneur Jésus-Christ nous a dit que beaucoup vont venir en son nom, que beaucoup vont se déclarer être des serviteurs de Dieu, être des pasteurs, être des prêtres, être ceci, cela au nom de Dieu. Beaucoup vont se déclarer être des grands prophètes, des grands apôtres. Mais le Seigneur Jésus-Christ dit, ils ont beau se cacher, un beau jour, vous allez les reconnaître par les fruits. Parce qu'on reconnaît un arbre que par le fruit qu'il produit. Oui, donc il suffit seulement de regarder ceux-là qui disent qu'ils sont des serviteurs de Dieu et le fruit qu'ils portent. Vous comprendrez s'ils sont réellement des serviteurs de Dieu. Donc les pasteurs et autres, les prophètes et autres qui sont des escrocs, des menteurs, non, ce ne sont pas des serviteurs de Dieu. Ils utilisent tout simplement le nom de Dieu pour faire leurs affaires. Oui, beaucoup qui se déclarent être prophètes, serviteurs, pasteurs, prêtres, en réalité ne sont pas des serviteurs de Dieu. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Et non par rapport à leur langage, par rapport à leurs paroles, mais par leurs fruits. Donc par les actes qu'ils posent au quotidien. Et ce ne sont pas également tous ceux qui disent qu'ils sont des chrétiens, des enfants de Dieu, qui sont réellement des chrétiens, des enfants de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ a dit que pour reconnaître celui ou celle-là qui est vraiment un enfant de Dieu, il faut juste regarder le fruit qu'il porte. Donc toi qui m'écoutes, qui te dit chrétien, qui te dit être d'une église réveillée, ou bien qui dit que tu as été baptisé et confirmé, c'est quel genre de fruit que tu portes? Le Seigneur Jésus-Christ a dit qu'on reconnaît un arbre par son fruit. Ne te trompe pas par des faux raisonnements. Le fruit que tu portes prouve ce que tu es. Donc, Si tu n'as pas la conviction que tu as réellement cru au Seigneur et que tu as la vraie foi, la foi qui sauve, c'est le moment maintenant de mettre ta vie en règle avec le Seigneur avant qu'il ne soit trop tard. Parce que le Seigneur Jésus-Christ a dit, ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront tous dans le royaume des cieux. Et il a dit, on reconnaît un arbre par son fruit. Si réellement tu t'es repenti, il faut que tu produises les fruits dignes de la repentance. La Bible nous dit qu'un jour, pendant que Jean-Baptiste baptisait les gens, il a vu venir à lui beaucoup de pharisiens, c'est-à-dire ces leaders religieux de son époque. Et le prophète Jean-Baptiste leur a dit, hypocrite, qui vous a appris à fuir la colère de Dieu à venir? Il ne faut pas seulement venir pour vous baptiser, mais il faut produire du fruit digne de la repentance. Très chers auditeurs, nous sommes presque à la fin de notre émission. Et je prie vraiment que le Seigneur vous accorde sa grâce, afin que vous ayez vraiment la vraie foi, la foi qui sauve, et que vous ayez les œuvres de la foi pour prouver que vous êtes réellement les vrais chrétiens, les vrais croyants. Que vous n'ayez plus seulement cette foi intellectuelle, la foi que même les démons ont, et qui tremblent même, mais qui ne peuvent pas faire la volonté de Dieu, cette foi qui ne peut pas les sauver. Donc ayez plutôt la foi qui va vous sauver. Parce que vous serez surpris que le dernier jour, le Seigneur Jésus-Christ puisse vous dire, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Alors que peut-être vous avez passé même votre vie à marcher sous le soleil pour parler de Dieu, comme certains le font, qui passent le temps à marcher sous le soleil, qui passent le temps à parler de Dieu du matin, midi ou soir, alors qu'en réalité, ils ne sont pas des enfants de Dieu. Alors qu'en réalité, le Seigneur ne les connaît pas, parce que la Bible dit que le Seigneur Jésus-Christ connaît tout ce qui lui appartient.
Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi, je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Comme l'argile devant les potiers, donne-moi la forme qui te plaît.
Très chers auditeurs, pouvons prier le Seigneur. Seigneur, merci pour ce moment que tu nous as accordé, Seigneur, de le passer dans ta sainte parole. Je prie afin que tu bénisses ta sainte parole dans les cœurs de ces auditeurs. Seigneur, que cette parole qui ne se borne pas seulement à écouter, mais à pratiquer ta sainte parole. Seigneur, accorde à tous ces auditeurs d'avoir la foi qui sauve et donc la foi intellectuelle. Seigneur, qui ne se trompe pas eux-mêmes par des faux raisonnements. Mais accorde-les ta grâce, qu'ils puissent vraiment croire, non seulement croire en toi, mais s'engager également à faire ta volonté, c'est-à-dire à pratiquer ce qui est écrit, parce que c'est cela qui est ta volonté, et c'est ça qui va les sauver. Seigneur, que tous ceux-là qui ont écouté ce message, qu'ils ne soient pas par ta grâce parmi ceux-là. Seigneur, que le dernier jour à qui tu diras, retirez-vous de moi parce que je ne vous ai jamais connu, alors qu'ils ont passé leur vie à parler de toi, à dire qu'ils croient que tu existes. Seigneur, je t'en supplie, je prie même pour tous ceux-là. Seigneur, qui se cachent derrière ton nom pour faire beaucoup de choses, alors qu'en réalité, ils ne sont pas tes serviteurs ni tes enfants, que tu les exposes même, ceux-là qui ne veulent pas se repentir. Seigneur, et que tu accordes la grâce à beaucoup parmi eux de se repentir et de porter vraiment du fruit digne de la repentance. Parce que toi-même, tu as dit qu'on reconnaît un bon arbre par le fruit qu'il porte. Seigneur Jésus, merci de bénir tous ces auditeurs et de leur accorder la grâce d'être une fois de plus à l'écoute au prochain rendez-vous. Seigneur Jésus, que l'honneur et la gloire te reviennent à toi et rien qu'à toi seul, parce que tu es le chemin, la vérité et la vie, maintenant et pour l'éternité. Amen.
Désormais sur votre radio, oui, désormais sur votre... Préparez-vous. Préparez-vous. Préparez vos cœurs à recevoir la vérité. Si vous avez des questions ou des préoccupations quelconques, sentez-vous libre de m'appeler au 77 61 93 77 ou aussi au 96 36 25 40. Et vous pouvez précéder ces deux numéros de 00 237 qui est le code du Cameroun si vous m'appelez hors du Cameroun. Vous pouvez aussi m'écrire à l'adresse électronique rodrigue.genji@yahoo.fr. Genji s'écrit N-J-E-N-D-J-I. rodrigue.genji@yahoo.fr. C'était l'heure de la vérité, l'heure de la vérité qui divise et qui dérange, mais aussi et surtout la vérité qui affranchit, la vérité qui sauve, la vérité qui délivre, la vérité qui libère. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre, a dit le Seigneur Jésus-Christ dans l'évangile de Jean chapitre 8, le verset 32. Vous tous qui aimez la vérité, et surtout la vérité biblique, soyez abondamment bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour vous servir, je suis le pasteur et serviteur du Seigneur Jésus-Christ, Rodrigue Genji. Très chers auditeurs, très chères auditrices, je tiens à ce que vous n'oubliez jamais que le vrai bonheur n'est qu'en Jésus-Christ. Oui, le vrai bonheur, c'est avec le Seigneur Jésus-Christ. Car lui-même, il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et personne ne va à Dieu sans passer par moi. Il a aussi dit, je suis la lumière du monde. Celui ou celle qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il ou elle aura la lumière de la vie. N'oubliez pas que vous pouvez aussi lire, écouter, visionner et télécharger gratuitement mes différents messages sur mon site internet www.pasteurrodrigue.com. Pasteur Rodrigue, c'est en un seul mot. Pasteurrodrigue.com.